diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité. Bonjour et bienvenue, je suis Sonia Oulad Ben Saïd sur IDFM Radio et à la technique Francky. Excellente journée sur IDFM Radio, sur le 98FM, sur idfm98.fr pour le site internet et l'appli IDFM Radio. Vous écoutez l'émission Tous les droits, l'émission qui répond à toutes vos questions d'ordre juridique. Selon le célèbre adage, nul n'est censé ignorer la loi, mais force est de constater que les lois changent régulièrement, se complexifient et que chaque cas est unique. Alors, pour vous aider à y voir plus clair, je recevrai chaque mois des avocats du barreau du Val d'Oise qui répondront à toutes vos questions, chacun, bien évidemment, dans leur domaine d'intervention respectif. Mes invités du jour sont tous avocats en droit de l'immobilier. Je les remercie vivement d'être venus partager cette matinée avec nous. Bonjour Alexis Barbier.
Bonjour Sonia.
Bonjour Rayman Ramtola.
Bonjour Sonia.
Bonjour Sébastien Balzarini-Nouakovic.
Bonjour.
Merci beaucoup de participer à la seconde émission de l'édition Tous les droits. Rayman Ramtola, je vous propose qu'on commence par vous. Nous avons sûrement des auditeurs qui sont étudiants en droit ou des gens qui s'intéressent à la profession d'avocat. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu de votre parcours, des motivations pour devenir avocat et sous quel statut vous exercez aujourd'hui? Je le précise, vous exercez en droit civil et en droit pénal et votre cabinet est situé à Pontoise.
Tout à fait. Alors, je suis actuellement collaborateur au sein d'un cabinet d'avocats, donc en contrat de collaboration. J'ai un master en droit privé et en droit pénal que j'ai eu à l'université de Grenoble. Et le métier d'avocat est un métier qui me passionnait et qui m'intéressait depuis que je suis rentré en première année de licence. J'ai beaucoup hésité entre la magistrature et l'avocature comme beaucoup d'étudiants.
Beaucoup, oui.
Et finalement, je me suis orienté vers le métier d'avocat qui est pour moi plus libre mais très encadré.
Très bien. Et donc, vous avez passé l'examen du barreau, c'était en quelle année?
C'était en 2019.
D'accord. Donc,
j'ai passé le CRFP en 2019 et j'ai obtenu mon CAPA en 2021.
D'accord. Et vous avez prêté serment?
En 2021.
En 2021. Très bien. Et donc, vous êtes collaborateur, donc, au sein d'un cabinet. C'est quoi la particularité du statut de collaborateur? Pour expliquer un peu à nos auditeurs.
C'est un statut assez ambivalent puisque nous avons le statut de libéral, mais en réalité, nous devons travailler pour un cabinet, nous devons traiter ces dossiers, aller aux audiences, et en même temps, nous pouvons avoir nos propres dossiers personnels, effectuer des permanences pénales. Donc c'est un statut qui est assez ambivalent, mais où on apprend d'un côté et où on peut s'exercer nous-mêmes de l'autre côté.
D'accord. Donc vous traitez les dossiers du cabinet qui vous emploie, on va utiliser ce mot-là, et puis à côté, vous avez vos dossiers à titre personnel.
Exactement.
Et donc, vous exercez, je le disais, en droit civil, en droit immobilier tout particulièrement,
oui,
et en droit pénal. C'est des matières que vous avez choisies par affinité
Surtout le droit pénal,
oui,
qui est une matière que j'apprécie énormément. Le droit immobilier, parce que j'en fais au sein du cabinet où je suis collaborateur. Et le droit civil, parce que la procédure civile, en réalité, est à peu près la même en fonction des matières. Ce sont trois matières qui sont pour moi très intéressantes à exercer.
Très bien, je vous remercie. Et puis, je précise aussi, parce que je me suis renseignée un peu, parce que nous n'avons pas eu le plaisir encore de nous rencontrer dans le cadre d'un dossier, mais j'ai vu que vous aviez écrit trois ouvrages sur le développement personnel, c'est ça?
Exactement, oui.
Donc j'invite d'ailleurs les auditeurs à taper votre nom sur Internet et à aller voir ces ouvrages que vous avez écrits parce que vous avez vous-même fait un travail.
Oui, parce que j'essaye chaque jour de faire une introspection et puis pourquoi pas partager ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc comme quand j'ai du temps, j'essaye de le faire et puis c'est un exercice assez rigolo d'écrire.
Ouais, bon, écoutez, on ira lire avec beaucoup d'intérêt vos ouvrages, mais en tout cas, je découvre à chaque fois des confrères avec des profils passionnant, parce que beaucoup d'avocats ont d'autres casquettes, des écrivains, des musiciens, des acteurs. Donc voilà, je tenais à le souligner aujourd'hui. Merci, merci pour cette présentation. À vos côtés, Maître Sébastien Balzarini-Nouakovitch. Bonjour encore une fois et merci d'avoir traversé quelques rues pour venir à IDFM Radio, puisque vous, votre cabinet est situé à Enghien-les-Bains.
Tout à fait.
Et alors, et également, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre parcours, de votre motivation pour devenir avocat et puis nous parler de votre exercice aujourd'hui?
Alors, en fait, si vous voulez, j'ai un parcours un peu atypique par rapport à notre confrère. C'est que ma mère est une avocate assez célèbre, Sylvie Novakovic. Et j'ai donc grandi dans le milieu. J'ai grandi dans le milieu des avocats. Étant tout petit, j'allais au cabinet de ma mère, j'allais à l'ordre, je participais avec elle aux différents procès. Je l'attendais au greffe pendant qu'elle allait plaider ses dossiers quand elle devait me garder. Et en fait, j'ai gravité autour de ce milieu d'avocat qui m'a assez fasciné. J'ai jamais dit que je voulais devenir avocat tout de suite, je savais pas, j'avais plusieurs passions. Ma passion numéro un, c'est la cuisine.
Voilà, c'est plein de casquettes, les confrères.
Et c'est ça, d'ailleurs, mes amis pensent, enfin, souhaiteraient que j'ouvre un restaurant, mais le droit me va très bien et j'en garde comme passion annexe. Mais en fait, du coup, en gravitant dans ce milieu, je me suis dit, mais en fait, aider les autres, aller aider ceux qui ont un problème, c'est quelque chose que j'aime.
D'accord.
C'est quelque chose que j'aime et c'est ce qui m'a poussé du coup à aller en droit, à faire mon parcours de droit et puis petit à petit arriver à la profession d'avocat après ces longues années d'études où je le dis aux étudiants dont vous parliez tout à l'heure qui pourraient nous écouter, il faut pas lâcher, les premières années sont horribles mais une fois qu'on les tient et qu'on arrive au bout, ça vaut le coup, c'est un métier passionnant.
Et vous avez un diplôme spécifique, vous avez fait une formation en droit civil, droit pénal.
Alors, je suis, dans mon activité professionnelle, à la base, je suis plutôt généraliste.
D'accord.
Et je suis rentré dans mes spécialités plus par le biais de la pratique. Dans le sens où j'ai une passion possible pour la construction, mais vraiment pratique. C'est que j'aime faire construire des choses, essayer d'avoir des projets. Et j'ai allié donc cette passion-là avec le droit, et c'est comme ça que je suis rentré dans le droit de la construction. Et tout ce qui est lié, litige avec les constructeurs, litige avec les artisans, aider les gens. Pareil, quand ils ont des problèmes sur leur chantier. Et donc c'est pour ça que j'ai deux pôles en fait qui se sont développés dans mon activité. D'un côté droit immobilier, droit à la construction, droit civil, et de l'autre côté je fais aussi beaucoup de droit pénal.
Très bien, comme notre confrère. Alors voilà.
Exactement, et c'est aussi une passion puis une petite drogue personnelle.
Ah oui, bah c'est vrai que dans le fantasme des étudiants en droit, l'avocat pénaliste, c'est un peu ce qui nous fait souvent vibrer et fantasmer. Après, soit on a un parcours universitaire qui se destine à d'autres matières, soit des fois c'est les clients qui viennent à nous et on se lance dans des matières parce qu'on a une clientèle particulière. Donc voilà, tout est possible. Enfin, merci à Alexis Barbier d'avoir accepté de participer à cette seconde émission. Alors frère, vous intervenez en droit de l'immobilier, en droit des assurances, alors même punition que les autres. Rappelez-nous votre parcours, comment vous êtes arrivé à exercer dans ces matières-là.
Écoutez, tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Alors, pour dresser un rapide portrait, donc du coup, moi aussi, mon papa était avocat, il a pris sa retraite depuis peu. Du coup, moi, je ne me dessinais pas forcément à devenir avocat, puisque j'ai fait un bac scientifique et j'ai vite compris que je ne rentrais pas dans les cases scientifiques. Donc j'ai eu mon bac un peu péniblement, j'ai atterri à la fac à Paris 13. Et donc, j'ai tout de suite accroché les matières, vraiment les matières. Ensuite, j'ai eu, pour faire très vite, un double master. Donc j'ai un master 2 en contentieux procédure à Paris 13 et un autre en droit des assurances à la Sorbonne. Et donc, on a un petit cabinet spécialisé, donc avec le siège social à Paris dans le 8e, 60 rue La Boétie, et c'est un cabinet secondaire à Pontoise, 20 rue Alexandre Prachet. Et donc effectivement, moi j'exerce principalement le droit des assurances et très très spécifiquement l'assurance construction également l'incendie, les catastrophes naturelles, dégâts des eaux et RC industriel. Donc vraiment sur plus sur ces notions de sinistre en matière de droit des assurances. Et assez contre-intuitivement, moi je suis très très passionné par le droit des assurances, donc quand on raconte ça à ses amis, c'est un petit peu étrange, mais parce que oui, les assurances, ça accompagne chaque activité humaine, donc c'est assez passionnant dans chaque secteur d'ailleurs.
Bon, je vous remercie pour ces précisions et votre expertise. Vous répondrez à des questions de nos auditeurs sur des litiges en droit de la construction et des litiges qui sont liés à des achats de biens immobiliers qui pourraient être affectés de vices cachés. Merci à tous les trois de vous être livrés sur vos parcours et d'avoir partagé avec nous les conditions de vos exercices. On se retrouve juste après une pause musicale pour la suite de l'émission.
Jamais je ne lui avais écrit des mots d'amour. On se balade main dans la main dans les rues de Billancourt. Je veux profiter de chaque instant, chaque jour. Chaque instant, chaque jour. Et quand je pensais pas revoir la lumière, tu as fait fuir en moi toute ma colère. Mon BPM depuis s'accélère. Oh. J'ai l'impression que tu me connais par cœur. Ravi que mes défauts ne t'aient pas fait peur. De mon histoire, tu es le plus bel acteur. Je n'ai qu'une envie, c'est de voir notre avenir. Petit à petit, entendre de nouveaux rires. Je me sens légère maintenant que tu es là. Je te dis je t'aime un peu pris 100 000 fois. Jamais douté depuis le début, le bon c'est toi. C'est toi, c'est toi. J'adore tes yeux, ton corps et dans tes bras. Je te dis je t'aime, t'aime, t'aime un peu pris 100 000 fois. Jamais douté depuis le début, le bon c'est toi. C'est toi, toi, toi. Dans mon petit cœur depuis le début, le bon c'est toi. Dans mon petit cœur depuis le début, le bon c'est toi. Dans mon petit cœur depuis le début, le bon c'est toi. C'est toi, toi, toi. Mon fil, c'est de voir notre avenir. Petit à petit, entendre de nos fous rires. Je me sens légère maintenant que tu es là. Je t'ai dit je t'aime un peu pris 100 000 fois. Jamais douté depuis le début, le bon c'est toi. C'est toi, c'est toi. J'adore tes yeux, ton corps et dans tes bras. Je t'ai dit je t'aime, t'aime, t'aime à peu près 100 000 fois. Jamais douté depuis le début, le bon c'est toi. C'est toi, toi, toi.
IDFM Radio, 98 FM.
Merci d'être resté avec nous sur IDFM Radio. Vous écoutez Tous les droits. Mes invités du jour sont avocats en droit immobilier et nous allons maintenant répondre aux nombreuses questions des auditeurs que je remercie vivement d'avoir sollicité nos experts du jour. Je me tourne donc maintenant vers Maître Rayman Remtola puisque nous avons reçu plusieurs questions. Alors je le précise, c'est plusieurs questions d'un même auditeur en droit de la copropriété. En droit de la copropriété qu'on inclut dans le droit immobilier, mais en droit de la copropriété, c'est un droit très spécifique. L'auditeur qui nous a sollicité, je le comprends, rencontre un certain nombre de problématiques, notamment avec son syndic de copropriété, concernant le paiement de charges de copropriété. Donc, on sait que ce sont des litiges extrêmement techniques, qui occupent beaucoup les avocats en droit de l'immobilier. Il n'est jamais facile de vivre en copropriété, manifestement. Alors, la première question est la suivante. Notre auditeur nous demande comment peut-on changer de syndic de copropriété?
Alors tout d'abord, il est possible de changer de syndic de copropriété, mais ce changement est encadré par la loi. Donc il faut suivre plusieurs étapes. Il faut tout d'abord une inscription à l'ordre du jour. Un ou plusieurs copropriétaires doivent demander à ce que la question du changement de syndic soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée Générale. Et cette demande doit être faite par un courrier recommandé au syndic en place et suffisamment tôt pour qu'elle soit intégrée dans la convocation de l'Assemblée Générale. En général, c'est au moins 2 mois avant la réunion. Ensuite, il faut rechercher de nouveaux syndics. Donc parfois, il faut mettre en concurrence certains syndics. Donc ça dépend si le contrat de syndic est arrivé à son terme ou pas. En tout cas, il faut pouvoir mettre en concurrence les nouveaux syndics avec celui en place actuellement, sauf si il a été voté lors d'une assemblée générale que la mise en concurrence soit exclue. Enfin, il faut un vote d'Assemblée Générale. Le changement de syndic doit être voté à la majorité absolue, c'est-à-dire que la majorité de tous les copropriétaires, qu'ils soient présents ou représentés, ou absents, doivent avoir émis leur vote.
D'accord.
Et si cette majorité n'est pas atteinte, il est possible d'organiser un second vote, à la majorité cette fois-ci simple, des copropriétaires présents ou représentés.
D'accord, c'est pas une mince décision de changer de syndic. Ça nécessite quand même un vote massif ou des copropriétaires, n'est-ce pas ?
Bien sûr, il faut une organisation qui soit réfléchie en amont.
Mais d'ailleurs, enfin, les questions des changements de syndic, c'est toujours un peu épineux ces questions-là, parce que les syndics peuvent changer assez régulièrement. Il faut bien se renseigner sur le syndic de copropriété, parce que lorsqu'on a après des besoins d'informations, le syndic qui est sorti ne communique pas forcément toujours les informations. Donc c'est un vrai sujet, le syndic de copropriété.
Et lors de la résiliation, il faut que le syndic en place envoie tous les documents au nouveau syndic, et ce transfert-là est parfois, voire souvent, très, très compliqué.
Oui, mais c'est une étape cruciale. Vous avez raison de le rappeler, et je vous remercie pour la précision de votre réponse. Deuxième question de ce même auditeur. Peut-on vendre un appartement si nous avons un arriéré de charges de copropriété ? C'est une bonne question.
Alors oui, effectivement, il est toujours possible de vendre son appartement, même lorsque nous avons des arriérés de charges de copropriété. En revanche, le notaire va devoir effectuer lors de la signature de l'acte de vente, le notaire mm-hmm. va pouvoir retenir une partie du prix de vente pour régler les dettes avant de verser le solde au vendeur.
D'accord.
Donc il est toujours possible, mais il faut faire attention et toujours se renseigner de savoir si le vendeur a des dettes envers la copropriété.
Donc ça, c'est le notaire qui doit vous communiquer ce genre d'informations. Il faut toujours s'en assurer, évidemment. D'ailleurs, est-ce que vous assistez de temps à autre aussi des copropriétaires qui sont assignés par le syndic en paiement de charges de copropriété ? C'est un contentieux qu'on voit souvent devant les juridictions.
C'est un contentieux qu'on voit souvent, et c'est un contentieux qui peut aussi avoir pour conséquence de saisir le bien immobilier et de le vendre aux enchères, par exemple.
D'accord.
Donc c'est la raison pour laquelle il est très important de vérifier si le vendeur a des dettes envers la copropriété.
D'accord. Merci pour ces précisions. Une nouvelle question, toujours de ce même auditeur. A-t-on le droit d'assister aux réunions du conseil syndical si nous ne sommes pas membres du conseil ?
Alors les réunions du conseil syndical sont réservées à ses membres.
D'accord.
Et un copropriétaire non membre n'a normalement pas le droit d'y assister, sauf dans des cas particuliers. Et le rôle du conseil syndical est de représenter les copropriétaires au syndic et de vérifier la gestion de ce dernier. Donc le conseil syndical est composé des copropriétaires élus. Lors de l'assemblée générale, ces réunions sont internes, concernent des membres élus qui vont discuter sur la gestion courante de la copropriété. Bien que ces réunions-là soient réservées aux membres, parfois le conseil syndical doit rendre des comptes sur certains travaux de la copropriété lors des assemblées générales et peut-être amené à faire des rapports réguliers. Donc il est possible d'assister à ces réunions.
D'accord. Et donc les membres du conseil syndical donc sont des membres élus. Donc c'est une charge importante. Il faut bien les choisir, quoi, parce que
il faut bien les choisir parce que effectivement il peut y avoir plusieurs charges, plusieurs contrats d'entretien comme le contrat d'ascenseur, les contrats des espaces extérieurs, il faut être très bien représenté. Donc il faut très faire attention. Enfin, il faut faire attention sur les personnes qui nous représentent.
D'accord. Merci beaucoup. Et dernière question de cet auditeur. A-t-on le droit de proposer des points à l'ordre du jour des AGE, AGO ? Donc Assemblée Générale Extraordinaire et Assemblée Générale Ordinaire. Je, je présume.
Alors, tout copropriétaire a le droit de proposer un sujet à l'ordre du jour, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire. Alors, il faut une demande formelle. Et pour que nos propositions soient discutées en Assemblée Générale, on doit envoyer une lettre recommandée au syndic, okay, en mentionnant clairement les points que nous souhaitons aborder lors de cette Assemblée-là.
D'accord.
Par exemple, on peut proposer des travaux, des questions concernant la gestion financière de la copropriété ou la modification du règlement de copropriété, par exemple. Et c'est très important de laisser une trace écrite et de prouver qu'on a envoyé notre demande. Parce que le syndic est tenu d'inscrire nos propositions à l'ordre du jour. Et si le syndic omet de le faire, cela peut entraîner une nullité des décisions prises de l'Assemblée générale, car toutes les demandes des copropriétaires doivent être prises en compte.
D'accord. Et alors maintenant, on peut aussi... Alors ça, je fais un point plus général sur ces contentieux des procès-verbaux d'AGE et AGO. Pour préciser aux auditeurs qu'il y a des délais pour contester les délibérations, notamment si un point n'a pas été inscrit à l'ordre du jour, est-ce que vous pouvez nous rappeler le délai de contestation des PV d'Assemblée Générale? C'est 2 mois, il me semble,
oui.
sous réserve.
Sous réserve, oui, c'est 2 mois.
Voilà, parce que là encore, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que avoir recours à un avocat spécialisé, c'est à mon sens indispensable, notamment sur ces questions de droit de la copropriété, parce que les contestations sont enfermées dans des délais, comme ce délai de 2 mois pour contester un procès-verbal d'Assemblée Générale. Et si vous ne le faites pas, votre action, elle est tout simplement irrecevable. Donc, connaître ses droits, c'est absolument nécessaire. Se renseigner quand on ne les connaît pas, c'est fondamental. Et je le précise aussi à chacune des émissions, et vous pouvez peut-être faire un petit commentaire là-dessus, mais on dit toujours qu'on va voir un avocat quand on a un contentieux, mais en fait, je leur dis souvent, on n'est pas des pompiers, on n'éteint pas les incendies, nous. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est anticiper les risques juridiques. Donc, aller voir un avocat, même au stade précontentieux, ou pour... est-ce que vous recevez, vous, régulièrement des gens pour des conseils juridiques ?
Beaucoup, oui, mais malheureusement, je reçois aussi énormément de personnes qui viennent nous voir en dernier recours. Et effectivement, nos marges de manœuvre ne sont pas élevées. Donc, c'est la raison pour laquelle je conseille, même lorsque la réponse paraît bête,
oui,
de venir
évidente,
nous voir,
oui,
évidente ou oui complètement, de venir nous voir pour nous la poser, parce que certaines conséquences peuvent être excessives et on ne pourra malheureusement rien y faire.
Oui, parce que on est souvent confronté aussi à ce genre de réflexion. Oui, mais j'ai été voir sur internet, on m'a dit que c'était ça, donc voilà, j'ai laissé faire, et puis après c'est beaucoup trop tard. Oui, maître Sébastien Mazarini Novakovic.
Oui,
pour agir.
Pour ajouter là-dessus, souvent j'ai des clients qui viennent me voir malheureusement trop tardivement et qui me disent je viens vous voir que maintenant parce que je pensais que ça allait coûter trop cher, je voulais pas avoir d'avocat, mais voilà mon problème. Et là, quand on voit l'assignation, quand on voit l'ampleur du problème qu'a pris le dossier, finalement, je leur dis, mais vous êtes venu trop tard, parce que si vous étiez venu voir au tout départ, vous auriez payé une consultation, on aurait fait ensemble un courrier et ce serait terminé. Donc
bien
en
sûr.
Fait, finalement, vouloir se faire l'économie d'une simple consultation avec un simple courrier que vous allez faire vous-même, parce que on va vous conseiller, on va vous guider, on va vous expliquer vos droits, ça peut vous éviter après des contentieux qui peuvent durer des années et qui vont coûter pour le coup des milliers d'euros.
Oui, mais je vous remercie pour ces précisions, parce que c'est effectivement voilà ce qu'on entend souvent dans nos cabinets. Donc, préciser aussi à nos auditeurs que la consultation, voilà, c'est un prix encadré. On vient en rendez-vous. Si la consultation est simple, je sais pas comment vous procédez vous, par exemple, dans votre cabinet, mais quand vous venez en rendez-vous, vous pouvez faire une consultation. Puis, si vous devez faire des recherches, j'imagine que ça donne lieu à des facturations encadrées.
Pour ce qui est des consultations, déjà, ça dépend des moyens des auditeurs qu'on a qui nous écoutent aujourd'hui. Faut savoir qu'il y a des consultations gratuites qui sont données dans les mairies. Renseignez-vous, appelez l'ordre, appelez vos mairies. C'était, par exemple, ce week-end, il y avait des consultations gratuites qui étaient données à Domont. Vous renseignez-vous, il y a des avocats qui bénévolement viennent vous donner des conseils. C'est précieux. C'est des avocats qui viennent donner leur temps justement pour aider les gens qui n'ont pas forcément les moyens d'aller aller voir un avocat payant. Et pour ce qui est du reste des consultations, quand vous prenez rendez-vous avec un avocat, vous appelez, vous allez tomber sur le secrétariat, demander le coût d'une consultation, vous allez venir à la première consultation, on va vous expliquer, vous guider autant que possible. Et si le dossier est plus complexe, là on peut partir sur une consultation écrite ou une ouverture de dossier, mais là du coup on passe sur d'autres tarifs, sur du temps passé ou autre. Enfin, ça, vous voyez ça avec chaque avocat fixe ses propres modalités financières, mais en tout cas la première consultation bien souvent peut régler les problèmes les plus simples et les questions que vous pouvez vous poser au quotidien.
Vous avez parfaitement raison et merci de l'avoir rappelé. D'ailleurs, le barreau du Val d'Oise est très proactif pour l'accès au droit. Vous avez rappelé qu'il y avait des permanences juridiques qui étaient organisées à titre gratuit. Vous avez raison aussi de préciser que les auditeurs peuvent parfaitement se rendre aux maisons de justice et du droit où des avocats tiennent des permanences régulièrement. On peut également se rendre au tribunal judiciaire de Pontoise où des permanences sont organisées, où vous pouvez avoir effectivement des informations sur comment trouver un avocat. Le barreau du Val d'Oise dispose d'un annuaire dans lequel les auditeurs peuvent rechercher soit par spécialité, soit par lieu d'exercice un avocat dans le domaine qui les concerne. Et c'est aussi l'objet de cette émission d'ailleurs, c'est de pouvoir expliquer aux auditeurs que les avocats sont partout si on cherche et si on sait comment les trouver. Et puis militer un peu contre cette idée qu'un avocat, ça reste cher, que c'est inaccessible.
Et si je peux me permettre de compléter, effectivement, les honoraires sont encadrés et nous devons établir une convention d'honoraires, donc il n'y a pas de frais cachés, tout est transparent.
Oui, je vous remercie de le préciser. Effectivement, nous sommes tenus de rédiger des conditions, une convention d'honoraires qui comporte un volet conditions générales de vente, qui doit être signée par le client avant qu'on puisse effectivement commencer à travailler ensemble. Je vous remercie d'avoir apporté toutes ces précisions sur ces éléments fondamentaux. Et je précise aussi d'ailleurs, parce qu'on est sur le volet des honoraires, que je voulais aborder plus tard, mais puisqu'on y est, les clients ne le savent pas forcément toujours, mais souvent ils souscrivent des contrats de protection juridique dans le cadre de la souscription d'un contrat d'assurance habitation, crédit bancaire. Maître Alexis Barbier, je vous propose de répondre peut-être à cette question avant qu'on fasse une petite pause musicale, puisque vous avez dans votre clientèle des institutionnels, comme on les appelle, notamment les protections juridiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Oui, tout à fait. Donc nous, le cabinet appartient à un réseau de compagnies d'assurance et qui, du coup, nous adresse des dossiers avec leurs assurés. Et donc le cabinet s'engage à respecter le barème des honoraires de l'assureur, c'est-à-dire que quelles que soient les diligences nécessaires à effectuer, donc elles seront effectuées et le client, l'assuré, c'est quand même très confortable, ne paiera pas un euro de sa poche supplémentaire. C'est-à-dire que le cabinet d'avocats s'engage, parce qu'il fait partie de ce réseau-là, à respecter le barème des honoraires de la protection juridique. Donc c'est surtout un service commercial important à rendre à l'assuré, en tout cas du point de vue de l'assureur. Après, il faut préciser que c'est l'engagement de mon cabinet, puisque en matière de protection juridique, la loi, c'est que la convention d'honoraires reste totalement libre entre l'avocat et le client. Donc l'avocat fait ce qu'il veut. Moi, je précise ce que pratique le cabinet Barbier, parce que nous, on s'est engagé vis-à-vis d'une compagnie d'assurance qui nous envoie un certain volume de dossiers. Par contre, si je prenais la protection juridique d'une autre compagnie d'assurance avec laquelle je ne travaillais pas habituellement, je fixerais mes honoraires librement avec le client qui l'accepterait et qui recevrait tout de même l'indemnisation à hauteur du plafond de sa compagnie.
Je vous remercie pour ces précisions. Je vous propose de marquer une nouvelle pause avant de retrouver nos invités et poursuivre nos discussions et de répondre à toutes vos questions. À tout de suite.
Jamais un seul aime. Ton amour toujours, c'est le pouls. ventre, c'est souvent la haine. On dévisage, on m'envisage comme une fille que je ne suis pas. Je m'exile, trop fragile, mille et une nuits m'éloigne de moi. Dans le mot je t'aime, fort en thème, maths et l'aime, mais en maths sub tu deviens blême. Ton amour toujours, c'est le pour ou le contre, on récolte ce que l'on sème. Tu me dévisages, tu m'envisages comme une fille que je ne suis pas.
IDFM Radio, 98 FM.
C'est tous les droits sur IDFM.fr, aujourd'hui consacré aux droits de l'immobilier, avec toujours à mes côtés Maître Alexis Barbier, Maître Rayman Remtola et Maître Sébastien Balzarini-Nouakovic, exerçant tous au barreau du Val d'Oise. Maître Sébastien Balzarini-Nouakovic, nous abordions avant la coupure musicale la question des protections juridiques. Vous vouliez réagir sur ce point?
Oui, il est vraiment important de dire à vos auditeurs que souscrire une assurance de protection juridique, c'est extrêmement important. Souvent, les gens se disent, bon, bah, c'est 10 ou 15 euros par mois, c'est une charge en plus. Mais en fait, en réalité, c'est pas très cher et ça peut également, en cas de contentieux, sauver les bourses de beaucoup de personnes. En effet, la protection juridique va aider à payer un avocat, mais va aussi aider à payer les experts judiciaires et les frais d'huissier de justice. Quand on a un problème en matière immobilière ou en matière de par exemple, de voiture, une voiture, un vice caché, un problème, quel qu'il soit, on doit payer des experts judiciaires. Ou même des experts amiables, puisque les protections juridiques payent également des experts amiables. Et donc, pour parler que de l'immobilier et de la construction, les honoraires d'experts judiciaires peuvent avoisiner les 10, 15, 20 000 euros, 30 000 euros en fonction des sinistres. Et si on n'a pas d'assurance de protection juridique, bah c'est le justiciable qui doit le payer. Et donc, il est essentiel d'avoir une protection juridique, je le dis, parce que la majorité, malheureusement, des clients qui viennent me voir à mon cabinet avec le sinistre qu'ils ont, quand je leur demande s'ils ont une assurance de protection juridique, ils me disent non. Et quand je leur annonce le coût de la procédure, même s'ils seront remboursés des honoraires de l'expert judiciaire par le parti qui perdra derrière, bah les clients me disent, mais en fait, j'ai pas les moyens de payer l'expert, j'ai pas les moyens d'avancer, et si le sinistre n'est pas suffisamment important, ils ne pourront pas le continuer, et donc c'est bien dommage, et donc vraiment, il est important d'avoir cette assurance pour tous.
Oui, parce que c'est un réflexe qu'ont les avocats maintenant de toujours solliciter, voilà, est-ce que vous avez une protection juridique, et voilà. Alors, quand les clients ont d'ailleurs une protection juridique, on va partir d'un cas particulièrement favorable, il faut aussi qu'ils regardent ce qu'on appelle les plafonds de prise en charge de la protection juridique, parce que chaque assureur a son barème d'honoraires. Donc il y a des, voilà, je donne un exemple, vous avez une protection juridique Y, vous allez regarder le barème de cette protection juridique et puis vous allez voir par exemple que pour un référé expertise, quand on a un problème sur un bien immobilier, on peut demander en référé la désignation d'un expert judiciaire. Et donc là, par exemple, sur ce barème, eh ben, la prise en charge est de 500 euros hors taxe. C'est important de le regarder parce que ce qui peut rester à charge en fonction de l'honoraire de l'avocat, c'est déterminant. Donc, prendre le réflexe aussi. Vous le demandez, vous, dans vos consultations, donnez-moi le barème d'honoraire et puis je vous...
Tout à fait. Non seulement on demande le barème pour pouvoir renseigner les clients sur combien ça peut leur rapporter en quelque sorte par rapport aux honoraires des différents du cabinet, mais aussi surtout par rapport sur cette même question des barèmes. Attention, beaucoup d'assureurs quand ils vont signer l'assurance de protection juridique disent regardez, vous êtes assuré à hauteur de 25, 30 000 euros, donc c'est bon, vous êtes assuré. Mais en réalité, non, vous n'êtes pas assuré à hauteur de 30 000 euros, vous êtes assuré selon le barème et le cumul de toutes les lignes du barème ne peuvent pas dépasser la somme globale. Donc en fait, finalement, vous êtes limité à ce barème et donc le barème est aussi important, voire plus important que le coût global.
Oui, vous avez raison de le préciser. Et j'ai eu le cas dernièrement, mais aussi sur les frais d'expertise. Il y a des protections juridiques qui prennent en charge les frais d'expertise judiciaire, mais selon un barème, des fois, c'est 5000 euros. Et on sait très bien que pour certains experts judiciaires, on sera à des provisions d'entre 10 000 et 15 000 euros. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment être très attentif à ces grilles tarifaires. Et oui, vous avez raison aussi de ne pas, entre guillemets, radiner sur les frais de protection juridique qui mensuellement sont un coût qui peuvent être dérisoires entre 5 et 15 euros par mois, mais que vous êtes rentabilisé le jour où vous avez un contentieux, parce que une prise en charge à 25 000 euros maximum, c'est ça vaut le coup. On va dire ça comme ça. Maître Alexis Barbier, vous vouliez réagir?
Juste une précision, puisqu'on pense souvent aux particuliers, hein, puisque effectivement une expertise judiciaire, ça coûte très très cher, c'est très onéreux, mais ça s'applique également parfaitement aux entreprises. Hein. On intervient également pour les entreprises de BTP. Porter un sinistre, ça leur coûte cher aussi. Hein. Elles ont les mêmes problèmes de trésorerie. Et même, on parlait de copropriété tout à l'heure, mais pour un syndicat des copropriétaires également. Et là, j'allais dire, avec la mutualisation de tous les copropriétaires, c'est, de mon point de vue, inexplicable de ne pas souscrire une protection juridique. On a souvent des litiges pour une copropriété. Donc, ça, c'est également pour les syndicats des copropriétaires et les entreprises une option très intéressante. Effectivement, que la protection juridique ou la défense recourt, mais...
Je vous avais parfaitement raison de le rappeler, et d'ailleurs donc ça veut dire qu'un bon conseil syndical avec un bon syndic souscrit une assurance protection juridique pour la copropriété, pour rebondir sur la question de la précédente auditrice. Nous poursuivons nos réponses aux questions des auditeurs avec vous, maître Sébastien Balzarini-Nouakovitch. Nous avons reçu pas mal de questions, alors tantôt formulées par des locataires, tantôt par des bailleurs auxquels vous allez répondre. Alors, première question, mon bailleur refuse de me restituer mon dépôt de garantie, que puis-je faire ?
Alors, cette question, je remercie l'auditeur de poser la question, mais malheureusement, il y a très peu d'informations sur le dossier et son problème, puisqu'en fait, ça dépend de beaucoup de conditions. Déjà, est-ce que l'état des lieux est conforme ou non conforme, puisque les délais sont différents. Si jamais l'état des lieux est conforme, alors le propriétaire doit restituer le dépôt de garantie dans le délai d'un mois. S'il n'est pas conforme, c'est le délai de deux mois. Donc, à quelle étape nous sommes par rapport à cet auditeur, ça, on ne sait pas. En tout cas, c'est important d'avoir ces éléments-là. Si jamais le propriétaire refuse de restituer le dépôt de garantie, il y a une sorte de sanction. La sanction, c'est 10% du loyer par mois entamé, que le locataire peut solliciter en plus du dépôt de garantie classique. Mais le propriétaire a le droit de garder ce dépôt de garantie sous certaines conditions. En effet, il y a les retenues déjà qu'il peut faire, puisque le locataire qui va quitter le bien va... Il y a un état des lieux de sortie qui va être établi. Si jamais l'état des lieux n'est pas conforme, du coup, à l'état des lieux d'entrée, alors il peut y avoir des frais qui sont faits par le propriétaire, comme des frais de remise en état des lieux, par exemple. Alors, le propriétaire doit justifier de la liste de tous les frais qu'il a pu avoir, donc l'état des lieux d'entrée, de sortie, l'état des lieux, les travaux de remise en état, les frais de le recommander qu'il peut avoir eu si jamais les loyers sont impayés, parce que le propriétaire ne peut pas directement prendre le loyer sur le dépôt de garantie. Il doit d'abord faire des relances pour pouvoir après justifier de ses démarches. Et d'ailleurs, j'en profite pour expliquer que le locataire ne peut pas spontanément dire « je pars, je paye pas le dernier mois, de toute façon il va être payé par le dépôt de garantie ». Non, le dépôt de garantie n'est pas fait pour ça. Le dépôt de garantie, c'est pour la remise en état des lieux et finalement la fin du contrat. Le locataire, malheureusement, beaucoup trop met en place cette pratique qui n'est pas légale. Le propriétaire peut également faire une provision, parce que par exemple dans une copropriété, les charges d'eau sont souvent facturées par le syndic en fin d'année. Donc le propriétaire peut garder 20% maximum du dépôt de garantie pour pouvoir payer ensuite les charges qui seront inhérentes au bien et à l'occupation qui a été faite par le locataire. Donc tous ces éléments-là permettent au propriétaire de garder tout ou partie du dépôt de garantie. Maintenant, tout doit être justifié. On doit faire des lettres recommandées pour expliquer au locataire pourquoi est-ce qu'on garde, pourquoi est-ce que les choses sont faites ainsi. Maintenant, il y a autant de locataires de mauvaise foi qu'il y a de propriétaires de mauvaise foi. On va pas mettre la mauvaise foi dans un camp. Et dans l'hypothèse où rien n'était justifié, où le propriétaire ne justifiait pas de la raison pour laquelle il restituait, parce que peut-être que notre auditeur a fait toutes les démarches, a fait des lettres recommandées pour demander à récupérer, puisque le locataire a le droit aussi de contester la provision qui est demandée, de contester la retenue qui est faite par le propriétaire en lettre commandée. Et à ce moment-là, on arrive sur une phase contentieuse, parce que il y a un moment où on n'a plus le choix. Pour cette phase contentieuse, la première étape, alors il y a deux phases. Ça dépend si le litige est de plus ou de moins de 5000 euros. Si le litige est de moins de 5000 euros, alors le locataire doit impérativement saisir le conciliateur de justice. Il peut aussi saisir la commission départementale de conciliation. Donc c'est obligatoire, alors que c'est facultatif pour les litiges de plus de 5000 euros. Néanmoins, à titre personnel, je le conseille quand même. Parce que avoir recours à une conciliation, avoir recours à une médiation pour d'autres sujets, c'est quelque chose d'important. Souvent, en renouant un dialogue entre les parties, on arrive à sortir des contentieux et à trouver des solutions, peut-être par des négociations, peut-être par une sanction qui est moins rigide que pourrait avoir le tribunal. Et si, malheureusement, nous n'arrivons quand même pas à sortir un accord dans le stade de cette conciliation, alors il est nécessaire de saisir le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité dont vous dépendez pour pouvoir avoir un jugement.
Et l'assistance d'un avocat est obligatoire devant le juge du contentieux de la protection ?
Elle n'est pas obligatoire, mais elle est fortement conseillée.
Oui, d'accord, très bien, merci bien. Oui, alors c'est vrai que je peux comprendre les auditeurs qui sont effarés de voir que voilà, il y a toujours des conditions. Enfin, c'est pas simple. Votre réponse était très précise. Ça dépend de l'enjeu du litige. Il y a pour certains contentieux une obligation de conciliation. Donc voilà, là encore un exemple sur des procédures de ce type. Là, le recours à un avocat n'est pas obligatoire, mais est fortement recommandé. Et d'ailleurs, est-ce que vous pratiquez vous-même, d'ailleurs, vous avez parlé donc de cette obligation de conciliation sur ce type de litige, mais la médiation, est-ce que c'est une pratique que vous avez beaucoup? Alors, on est très incité aujourd'hui à entrer en médiation. Le législateur impose de plus en plus, pour certaines procédures, ce recours à la médiation. Le tribunal judiciaire nous invite même à entrer en médiation, donc c'est un processus auquel nous devons tous nous mettre. Est-ce que vous encouragez cette médiation dans votre cabinet?
Oui, tout à fait. Je suis à titre personnel, assez convaincu de l'intérêt de la médiation. Le barreau du Val d'Oise est un barreau pilote pour tout ce qui est la question de médiation. Le tribunal également judiciaire de Pontoise l'est. On a notamment une des présidentes des chambres civiles qui est très très investie sur la question de la médiation. J'assistais encore récemment à une formation qui était organisée par Mediavo à Pontoise et par la cette présidente, et on voit du coup l'apport de l'entrée en médiation. C'est-à-dire que la médiation, c'est pas forcément pour trouver la solution à notre litige. Très souvent, et c'est d'ailleurs la question d'un des auditeurs plus loin qui pourra peut-être nous rentrer plus sur cette question-là, on pense que la médiation, c'est pour régler les causes de l'assignation. Or, en réalité, quand on est, par exemple, dans des litiges comme en droit de succession, en droit familial ou en voisinage, le litige, il dépasse complètement ce qui est écrit dans l'assignation. Et très régulièrement, on a la question d'un arbre. Un arbre qui est entre deux fonds, avec des rejets de branches d'un côté et de l'autre. Et finalement, ils se bataillent dessus sur le moment où on doit la tailler. Puis on arrive à des stades qui sont énormes. Alors on voit sur Internet des fois des exemples un peu rigolos, des gens qui se lancent des pierres à travers d'une haie qu'ils ont fait de 6 mètres. Enfin, voilà, ça commence à monter en pression. Mais en réalité, le problème, c'est pas l'arbre. Le problème, ça va être l'un des deux qui va garer sa voiture à tel endroit dans la rue et ça plaît pas à l'autre. Ou ça va être un mot qui a été dit à un moment, qui a été mal interprété. Et du coup, une des personnes qui ne va pas forcément s'exprimer va le garder pour lui et va nourrir une rancœur envers son voisin. Et après, du coup, on arrive à des échanges insoutenables. Alors qu'en fait, la médiation va forcer les parties à se rencontrer et finalement les médiateurs, qui sont souvent très talentueux, vont réussir à les faire communiquer et à les faire poser la raison de leur rancœur. Et Mediavo, qui est une association des avocats du Val d'Oise et que vous pouvez saisir à tout moment en les contactant, ont donc des médiateurs qui sont avocats et donc qui sont habitués au contentieux, qui sont habitués à voir des gens qui se tapent dessus, physiquement ou métaphoriquement, et vont essayer, du coup, de par leur formation de médiateur et leur expérience de médiateur, lors de cette première séance, de les faire dialoguer, essayer de creuser et d'aller bien au-delà de tout leur contentieux.
Donc il y a des avocats qui se forment à la médiation, mais les avocats, sans être formés à la médiation, ont propension quand même à proposer de renouer le dialogue. C'est quand même une des caractéristiques, parce qu'on n'est pas sans passer par la médiation, on peut très bien entrer en contact dans le cas d'une mise en demeure avec la partie adverse, même si elle n'est pas représentée. Donc on a quand même vocation à, vous l'avez à très juste titre rappelé, de renouer le dialogue. C'est un peu aussi notre mission. Nous, avocats.
Complètement. Nous devons alors faire les mises en demeure, comme vous le rappelez très bien. Et finalement, la mise en demeure, ça va être le cadre du dossier, rentrer dans le premier contact. Sauf que les échanges entre avocats ne permettent pas les échanges entre les parties. Et c'est là où la médiation est importante. Et nous, en tant qu'avocats, on a cette mission d'accompagner les parties. Parce que la médiation, c'est pas seulement les parties entre elles. C'est les avocats qui accompagnent les parties dans ce processus de médiation. Déjà parce qu'ils ont besoin d'être conseillés. Puisque si on n'est pas présent, ils vont croire que l'autre va essayer de leur marcher dessus et leur piquer des droits. Et donc en tant qu'avocat accompagnateur en médiation, on est là pour leur expliquer ce qui est proposé, ça va dans leurs droits ou pas. Et il y a en médiation, on peut avoir des accords qui ne peuvent pas être obtenus en judiciaire. Un président du tribunal judiciaire de Pontoise qui m'avait fait une métaphore qui je trouve absolument géniale et que je répète souvent. C'est la médiation, c'est comme un litige sur une orange. On va avoir une orange et donc on aura deux parties qui vont se battre pour cette orange. Une des parties va vouloir cette orange pour faire un jus. Et l'autre partie va vouloir cette orange pour uniquement récupérer le zeste et faire un gâteau. Le juge va devoir dire « Bon, l'orange, elle est à l'un, elle est à l'autre, ou je la coupe en deux, vous prenez chacun la moitié. » Mais en médiation, on va pouvoir déceler finalement que chacun veut une partie de l'orange, et puis ben on va donner le zeste à l'un, le jus à l'autre, et les deux seront contents. Donc ça, ce sont des résultats hybrides qui ne sont possibles que en médiation.
Je vous remercie pour cette jolie métaphore de la médiation que je vais garder à l'esprit. Nous marquons une nouvelle pause musicale avant de retrouver nos invités pour répondre de nouveau à vos questions.
IDFM Radio, 98 FM.
Merci d'être resté avec nous sur IDFM Radio. Vous écoutez Tous les droits. Mes invités du jour sont avocats en droit immobilier et nous continuons de répondre aux questions des auditeurs. Avant la pause, il était question de médiation et Maître Rayman Remtola voulait intervenir sur ce point.
Effectivement, j'ai toujours pour habitude de dire qu'il vaut mieux un mauvais accord qu'un bon procès. Pourquoi ? Parce que, comme l'a dit mon confrère, le procès, l'issue du procès est toujours incertaine puisque c'est le juge au final qui va trancher. Le procès coûte du temps, le procès coûte de l'argent et le procès coûte de l'énergie. Donc il vaut mieux parvenir à un accord, même si nous ne sommes pas, c'est un accord qui nous est pas forcément très favorable. En tout cas, ça nous épargne beaucoup de frais et qui nous préserve aussi la santé.
Bien sûr, vous avez raison de le rappeler, c'est le principe des concessions réciproques. Ça veut dire qu'il faut que chacun fasse des efforts. C'est pas toujours simple, mais oui, c'est ce qu'on dit souvent, un bon accord vaut mieux qu'un mauvais procès, et avec des délais d'audiencement aussi, hein, qui se rallongent, on peut aussi proposer ça dans la balance, mettre en perspective les délais de procédure, l'avantage d'un accord. Maître Alexis Barbier, vous vouliez réagir?
Oui, juste une observation, parce que je rejoins tout à fait ce qui a été dit par mes deux confrères. Juste pour rappeler pour les auditeurs qui le savent très bien, que pour des raisons, pour diverses raisons, la justice dysfonctionne totalement, en tout cas en termes de délai. C'est-à-dire que les délais sont beaucoup trop longs. Et moi, je pars effectivement du principe que, là, on parlait de la conciliation, on parlait de la médiation. Donc la médiation, effectivement, elle est proposée même au stade des référés, dans chaque procédure au fond. Mais même à côté de la conciliation et de la médiation, je pense que le rôle de l'avocat, c'est toujours dans chaque dossier, d'abord de proposer également une transaction, c'est-à-dire avant même d'avoir une assignation au fond, au cabinet, nous reçoit un rapport d'expertise. Je considère que les différents avocats et les différentes parties doivent pouvoir déterminer, à partir d'un rapport judiciaire, qui dit clairement les causes sont celles-ci, les responsabilités potentielles sont celles-ci, ça coûte tel prix, on doit pouvoir, entre professionnels, déterminer, rédiger un jugement nous-mêmes. On n'a pas besoin d'un magistrat ou d'un tribunal pour se prononcer sur cette question-là. Après, il y a des questions de principe. Par exemple, si une partie conteste sa responsabilité ou un assureur conteste sa garantie, là, il y a des différences d'interprétation qui nécessitent l'intervention d'un juge. Mais à partir du moment où on a ces postulats-là qui sont actés, que personne ne conteste sa responsabilité, on parle que de la répartition des responsabilités, on a déjà un montant connu. Bon, discuter de quelques pourcentages, etc. Je pense que c'est le rôle des avocats de, justement, d'apporter une solution concrète à leur cliente et de pouvoir proposer une transaction. Et effectivement, si on n'arrive pas à transiger, le tribunal, dans le cadre d'une procédure au fond, va proposer en plus une médiation. Mais en théorie, on doit avoir en amont parlé de discuter de tout cela avec toutes les parties. Et la médiation, elle est très utile, et nous, on en fait énormément également au cabinet. Après, il y a des dossiers qui s'y prêtent et d'autres non. Par exemple, quand il y a une contestation de position, de responsabilité de position ou de garantie d'assurance, on peut aller en médiation, on trouvera pas d'accord entre les deux. Et de la même manière, moi j'avais reçu une ordonnance de référé pour désigner un expert judiciaire. Le juge des référés dit, bon, bah vous allez devant le médiateur. Quand on ne sait pas d'où viennent les désordres, oui. Quand on ne sait pas qui est potentiellement responsable, on va rarement tomber sur une partie qui dit, bon, c'est pas grave, c'est pour moi, voilà le million, c'est rare. Donc il faut quand même avoir quelques éléments pour pouvoir discuter, transiger ou discuter avec un médiateur. Il faut au moins savoir d'où vient le problème et qui est potentiellement intéressé et concerné, et avant de nouer le dialogue. Voilà juste cette petite précision sur le système global, conciliation, médiation, transaction, et tout faire justement pour apporter une solution concrète à nos clientes, et si possible éviter la lenteur d'une procédure judiciaire devant un tribunal ou une cour d'appel, tout simplement.
Oui, vous avez raison de le rappeler. Alors là, c'est vrai qu'on est dans l'ère de la médiation et la conciliation, et certains juges se sont engouffrés dans cette mouvance. Et il est vrai qu'on arrive des fois à on nous enjoint de rentrer en médiation, vous l'avez à juste titre rappelé, alors que des fois, les termes du litige ne sont pas encore connus. C'est spécifique, on peut le dire peut-être au droit de la construction. Lorsque vous avez un litige avec un constructeur, que vous demandez la désignation d'un expert judiciaire qui doit expertiser le bien, déterminer quels sont les désordres, qui est responsable. Il arrive des fois, effectivement, que les magistrats, avant même que l'expert judiciaire soit désigné, nous enjoignent de discuter. Mais je me suis retrouvée dans ce genre de réunion de médiation où le conciliateur me disait « qu'est-ce qu'on fait ?» On fait qu'on ne sait pas ce qui se passe, donc on ne peut difficilement aller plus loin. Oui, Yvette Barbier.
Disons qu'il faut au moins qu'une réunion puisse se tenir pour savoir d'où viennent les désordres et que les parties puissent au moins partir d'un accord pour dire la cause de ce désordre c'est ça. Il faut au moins partir de ce postulat technique en commun. Après, nous, il faut pousser à toutes les solutions de règlement amiable des litiges, c'est-à-dire la conciliation, la médiation, la transaction dès que c'est possible. C'est évident, nous on travaille avec des entreprises en expertise amiable, on essaie de trouver un accord pour pas que ça parte au judiciaire. Et c'est important parce qu'on parlait tout à l'heure des frais par le biais de la protection juridique, mais quand vous avez des particuliers qui préfinancent sur leur fonds personnel 15, 20 000 euros. Donc l'expertise judiciaire, ça peut durer quelques années, hein. Un an et demi au mieux, ça peut durer 2, 3, peut-être 4 ans. Si vous ajoutez une procédure au fond devant le tribunal qui dure 3 ans et une cour d'appel qui dure 3 ans et demi, bon, je pense que c'est l'intérêt des auditeurs de trouver une solution amiable, si possible, justement avec un rôle très actif de leurs avocats. Et je pense que les avocats, en compagnie des médiateurs, conciliateurs ou même simplement entre confrères et les parties, par le biais d'une transaction, on a un rôle très très important à jouer. Voilà, compte tenu du contexte de l'engorgement des juridictions. Voilà, et c'est pas du tout faire un procès aux magistrats, ils font de leur mieux et les avocats également. Mais le constat, c'est que les procédures elles durent quand même. Le temps judiciaire est long. Pour le parti, pour le justiciable.
Merci pour ces rappels et cette analyse. Alors bon, on va poursuivre sur les questions des auditeurs et je pense que c'est maître Balzani Novakovic, c'est à ce type de contentieux dont vous faisiez référence tout à l'heure qui est effectivement un haut lieu d'électricité, c'est les conflits de voisinage concernant les arbres qui dépassent chez le voisin. Alors, on a reçu une question d'un auditeur. Je rebondis, c'était pas dans cet ordre-là, mais je préfère la poser celle-ci. Je suis propriétaire d'un pavillon. Mon voisin n'entretient pas son jardin. Comment faire pour obliger mon voisin à élaguer ses arbres qui dépassent sur ma propriété ?
C'est tout à fait à ce litige dont que je visais tout à l'heure. C'est vraiment le litige phare, le litige entre les voisins. C'est le litige où le contentieux, finalement, règle le problème à intenter, mais ne va pas régler le problème de fond. Il faut avoir un accord, il faut encadrer, il faut faire du cadre. On ne demande pas aux voisins de pouvoir parler et d'être les meilleurs amis du monde, juste bonjour, au revoir, et voilà, on cadre notre relation. Lorsque votre voisin ne taille pas ses haies, et que du coup des rejets de haies reviennent chez vous, vous pouvez le contraindre à le faire. C'est l'article 673 du Code civil qui le prévoit, que lorsque des branches avancent sur le fond du voisin, alors le voisin doit les tailler. Vous pouvez d'abord lui envoyer une lettre commandée en lui disant voilà, votre tel arbre, telle haie, voilà, on fait une photo, viens sur mon fond, merci de venir le tailler. Alors bien sûr, je pars du principe que tout ce qui est discussion orale, SMS et autres mails sont passés avant. Je parle de la lettre commandée qui ne doit pas être la première étape. Bien sûr, le but c'est de garder des bonnes relations de voisinage et d'abord on tente tout ce qui est amiable classique entre voisins. Si la lettre commandée ne fonctionne pas, dans ces cas-là, vous pouvez faire appel à un commissaire de justice qui va venir constater le fait que les branches vont dépasser, que la haie va être de plus de 2 mètres. Bon, vous regardez en fonction des PLU de là où vous habitez, les contraintes de telle ou telle haie, en fonction de s'ils sont sur la rue et qu'ils viennent chez vous, ou qu'ils sont en limite de propriété, est-ce que ces haies sont mitoyenne ou pas, il y a des règles très très précises. Et si jamais les règles ne sont pas respectées, donc que vous avez ce constat de commissaire de justice, alors vous pouvez saisir le tribunal, le juge du contentieux de la protection, qui va ordonner sous astreinte à votre voisin de tailler sa haie. Encore une fois, vous pouvez très bien aller voir le conciliateur ou le médiateur à ce moment-là, et le conciliateur, en fait, à l'issue, peut rédiger une convention entre vous et qui pourra dire, bon, bah voilà, vous devez tailler la haie à telle date pour pouvoir, à telle date et telle date, donc dans l'année, vous verrez entre vous, pour pouvoir faire en sorte que les relations se passent bien. Et n'oubliez pas une chose, c'est que la convention qui est issue de la conciliation ou de la médiation peut être homologuée ensuite par le juge que vous auriez saisi. Et ça, c'est une vraie force de jugement. Vous pouvez directement après aller voir le juge de l'exécution, si jamais ce n'est pas respecté, pour demander alors l'application sous astreinte de cette décision, entre guillemets. Donc l'astreinte, c'est bien, mais c'est toujours mieux d'avoir un accord et un cadre que vous créez entre vous. En tout cas, la solution judiciaire, c'est la saisine du tribunal qui va condamner votre voisin à tailler sous astreinte.
Et sauf faire de ma part, donc, sur ces questions d'élagage, avant de saisir le juge, vous avez l'obligation de tenter une médiation, sauf faire de ma part sur les problèmes
d'élagage. Une conciliation.
Un préalable obligatoire sur ce type de litige.
Tout à fait, j'en ai tellement parlé que du coup, j'ai pas précisé que c'était obligatoire, mais.
Voilà, sur ce type de contentieux-là qui, oui, par définition, a été désigné par le législateur comme un litige qui impose d'abord qu'on tente quelque chose dans un cadre amiable. Sachant que les arbres, ça repousse, hein. Donc, si vous n'encadrez pas bien vos décisions. Enfin, ça peut être un contentieux régulier pour les avocats. Ça, c'est vrai que quand vous avez des voisins qui n'élaguent pas, c'est. Mais c'est vrai que c'est un contentieux qui cristallise beaucoup d'enjeux émotionnels. C'est vrai. Moi, j'ai souvent été devant l'ancien tribunal d'instance à l'époque avec des photos d'arbres par tous les temps, par toutes saisons. C'est. Voilà.
Et on peut aller jusqu'à des pissenlits qui passent à travers le grillage.
Enfin, pissenlits, j'ai jamais eu. Les bambous, les hêtres, les machins. Vous avez eu ça? Ah, pas mal.
Ça peut prendre des ampleurs telles qu'après, la moindre brindille.
Ah oui, est un enjeu de crispation et de contentieux. Très bien. Alors, c'est une autre question dans un litige, cette fois, concernant un appartement mis en location. Un propriétaire nous a contacté en nous indiquant, je suis propriétaire d'un appartement loué depuis un an. Et depuis 3 mois, le locataire a cessé de régler les loyers et n'a pas justifié avoir souscrit d'assurance. Que dois-je faire ?
C'est une très bonne question, puisque c'est quelque chose qui est assez courant, les loyers impayés, les deux frais d'assurance un peu moins heureusement, mais qui sont aussi assez présents. L'un comme l'autre sont des causes de résiliation et d'acquisition de la cause résolutoire. C'est-à-dire que si le locataire ne paye pas son loyer, ou si le locataire n'a pas l'assurance, alors il est possible de solliciter l'expulsion de son locataire. Bien entendu, on commence par envoyer une mise en demeure en demandant au locataire de s'exécuter, de payer son loyer, de justifier de son assurance. Pour ce qui est des loyers, si jamais le locataire ne paye pas son loyer, alors on peut aller voir directement un commissaire de justice lorsqu'on a fait les mises en demeure préalables et demander à ce qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire soit délivré au locataire. Ensuite, il faut aller voir un avocat pour mettre en place la procédure d'expulsion qui est malheureusement longue et même une fois qu'on a la décision, il faut la faire exécuter et l'exécution est également longue, notamment avec la trêve hivernale qui est à ce jour entre le 1er novembre et le 31 mars et qui fait que c'est un véritable parcours du combattant pour les propriétaires de faire expulser un locataire. Et malheureusement, quelques locataires un peu indélicats profitent de cette situation pour ne pas payer son loyer. En tout cas, pour notre auditeur, son locataire, je ne sais pas si c'est le même bien où il n'y a pas d'assurance et où il ne paye pas son loyer, mais si le locataire paye son loyer, alors les juges, en général, ne vont pas aller jusqu'à la résiliation du bail. Ils considèrent qu'il est de bonne foi et ils vont le laisser un peu de temps. Mais j'ai déjà vu des juges qui lui disent « bon, vous payez ». Par contre, si jamais vous recommencez à ne plus payer, alors le propriétaire peut directement saisir un huissier et le mettre dehors. Donc on a quelques décisions un peu hybrides qui permettent de mettre un petit peu la pression sur le locataire et lui montrer, lui dire, l'inciter à rester de bonne foi et à continuer de payer son loyer. Pour ce qui est du défaut d'assurance, mais ça c'est gravissime. Il est essentiel d'avoir une assurance dans le cadre d'un bien. Si jamais il y a un sinistre, l'immeuble entier peut être impacté par un défaut d'assurance, par un sinistre, et donc le défaut d'assurance peut avoir des conséquences dramatiques. Mais y compris pour le locataire lui-même, puisque si le locataire n'a pas d'assurance, ça veut dire que aucune assurance ne pourra prendre à sa place le risque qu'il prend. Et imaginons qu'il y a un sinistre majeur et qu'il y a un blessé, un mort. Alors le locataire pourra payer toute sa vie son défaut d'assurance et c'est pas concevable. Donc bien entendu, le fait de ne pas avoir d'assurance, c'est quelque chose de dramatique.
C'est noté. Merci pour ces précisions précieuses. Nous marquons une nouvelle pause avant de poursuivre avec Maître Sébastien Balzarini-Nouakovitch. À tout de suite. Tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless.
should never look so blue. You're everything I see in my dreams. I wouldn't say that to you if it wasn't true. Ooh, oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, oh, oh, girl, I'm gonna show you when you're mine.
IDFM Radio, 98 FM.
C'est tous les droits sur IDFM.fr, aujourd'hui consacré aux droits de l'immobilier, avec toujours à mes côtés Maître Alexis Barbier, Maître Rayman Remtola et Maître Sébastien Balzarini-Nouakovic, avec qui nous continuons. Alors nous parlions avant la pause du cas d'un propriétaire qui rencontrait des déconvenues avec son locataire, et cette fois nous allons nous intéresser au cas d'un locataire qui nous indique, donc je suis locataire d'un appartement situé au troisième étage. Je subis des infiltrations d'eau en provenance de l'appartement du dessus depuis 5 mois. Un constat amiable a été établi avec l'occupant de l'appartement en cause, mais je n'ai reçu aucune indemnisation à ce jour. Quels sont mes recours à l'encontre de mon bailleur, de mon assureur et ou du locataire du dessus ?
Alors, la première question que je voudrais poser à l'auditeur, qui malheureusement n'est pas là, mais on va évoquer les solutions, c'est est-ce que lui-même, il a déclaré à son assurance? Puisqu'il nous indique dans sa question avoir effectué un constat amiable, mais est-ce que ce constat amiable, il l'a ensuite envoyé à sa propre assurance locataire? Est-ce qu'il l'a envoyé à son propriétaire pour qu'il l'envoie également à sa propre assurance propriétaire? Ça, c'est des questions auxquelles je n'ai pas de réponse aujourd'hui. Donc déjà, le premier conseil que je peux donner à ce locataire, si ce n'est pas fait, j'espère qu'il est encore dans les délais, c'est d'immédiatement envoyer donc à son propriétaire et à son assurance le constat de dégâts des eaux, parce qu'en fait, en fonction du montant des réparations, les assurances ne sont pas les mêmes à prendre en charge le sinistre. Si on est sur un dégât qui, finalement, pour les réparations, on est à moins de 1 600 € hors taxe, alors l'assureur gestionnaire prend en charge directement les réparations, et c'est donc finalement bien souvent l'assurance du locataire, parce qu'il y a des accords entre les assurances et c'est pas forcément l'assurance responsable au sens juridique du terme qui va prendre en charge la réparation. C'est d'abord entre eux, selon leurs accords, et après en contentieux, par contre, c'est différent. C'est vraiment celui qui est responsable qui paye. En tout cas, aujourd'hui, pour notre auditeur, s'il a fait tout dans les règles et qu'il n'a toujours pas d'indemnisation, alors je ne peux que l'inviter à faire une lettre commandée à son voisin du dessus, à faire une lettre commandée à son assurance pour leur demander une indemnisation, puisque le locataire qui est assuré pour les sinistres de dégâts des eaux doit avoir une indemnisation de son assurance, parce que c'est quand même pour ça qu'on paye les assurances, et pour pouvoir avoir une indemnisation et pour pouvoir vivre décemment. Maintenant, la question est aussi de savoir si le voisin du dessus a réparé les causes de l'assurance, les causes de du sinistre, puisque si jamais le plafond continue à couler, bah, l'assurance, d'ailleurs, à très juste titre, ne va pas payer l'indemnisation de réparation si le sinistre continue. Donc voilà, ce sont toutes autant de questions auxquelles je peux pas répondre puisque je n'ai pas la personne en face de moi, mais en tout cas, le premier réflexe dans ces cas-là, c'est d'aller voir aussi son avocat et d'appeler éventuellement son assurance de protection juridique qui peut les guider sur des droits un peu... disons, je vais pas dire basique, mais de premier secours, et après les renvoyer vers un avocat de son choix ou de leur réseau en fonction des assurances. En tout cas, il y a juste peut-être un conseil que je peux donner à nos auditeurs, c'est lorsque les experts vont venir pour constater les désordres, essayez en amont de faire venir des entreprises pour faire évaluer les travaux de reprise. Parce que les experts d'assurance qui vont venir sur place vont essayer d'évaluer à ce qu'on appelle à dire d'experts. Et les montants que les experts vont proposer sont bien souvent bien en deçà de ce que coûtent réellement les réparations. Donc lorsque vous avez en amont fait venir un artisan, un peintre, un plaquiste, enfin les artisans dont vous avez besoin, des fois il faut réparer une cuisine entière. Lorsque l'expert va venir, vous lui présentez les devis, et là, il va valider ou non. Il peut même contacter directement l'artisan en lui expliquant que tel et tel point ne vont pas, et les devis complémentaires seront faits. Et alors, vous vous assurez d'avoir une indemnisation à hauteur de votre réel préjudice.
Très bien, c'est noté. Je précise d'ailleurs que les protections juridiques, dans des cas de dégâts des eaux un peu basiques, peuvent aussi faire rédiger les mises en demeure à l'encontre du locataire du dessus. C'est des services qui proposent les mises en demeure. Souvent, les protections juridiques proposent de les rédiger. Et si vraiment la mise en demeure est infructueuse, on passe le relais à un avocat. C'est souvent le cas. Bon, en tout cas, on espère pour cet auditeur que son litige va avancer favorablement. Et ça, c'est dans les cas où on sait d'où vient l'eau, parce que là, il a la chance de savoir d'où vient l'eau, mais les avocats en droit de l'immobilier passent beaucoup de temps dans les salles de bain, sur les toitures terrasses, parce que des fois, on ne sait pas d'où vient l'eau.
Et parfois, à l'opposé de la maison.
Et parfois, à l'opposé de la maison, voilà. Voilà, c'est important de le préciser. Lorsqu'on ne sait pas d'où ça vient, il est souvent nécessaire de voir désigner un expert judiciaire qui va examiner les appartements et chercher d'où vient l'eau. Merci pour ces précisions, Maître Sébastien Balzarini-Novakovic. Maître Alexis Barbier, nous allons terminer l'émission avec vous. Nous avons reçu plusieurs questions à votre attention concernant, alors là, des sinistres construction, catastrophes naturelles et relatifs à des vices cachés. La première des questions est la suivante. Un auditeur nous indique qu'il vient d'acheter un bien immobilier qu'il a emménagé depuis quelques semaines et il vient de découvrir des fuites en provenance de la toiture terrasse. De quel recours juridique je dispose ?
Alors, c'est effectivement des cas qu'on rencontre assez régulièrement et c'est des dossiers assez délicats. Alors, on va immédiatement penser aux vices cachés. Alors, tout d'abord, rappeler aux auditeurs que le principe, en théorie, c'est que quand on achète un bien immobilier, on l'achète en l'état. Et c'est pour ça qu'en général, dans l'acte de vente, on a une clause d'exclusion des vices cachés. Donc en théorie, l'acquéreur, il doit faire son affaire personnelle de ces infiltrations-là. Par contre, il y a des possibilités, et notamment lorsque l'acquéreur se rend compte que peut-être le vendeur lui aurait caché sciemment, volontairement des choses. Donc là, les choses peuvent se présenter différemment. Il pourrait aller rechercher le vendeur sur les vices cachés à condition de rapporter une preuve qui est très difficile à rapporter, hein, tout de même je souligne, la preuve qu'il aurait effectivement une intention dolosive ou volontairement caché l'existence d'infiltration qui existait avant la vente. Alors, comment y procéder ? Peut-être que si c'est un problème de toiture terrasse, avec une entreprise, il pourrait découvrir qu'il y a eu des reprises ponctuelles, du rafistolage, des choses comme ça. Peut-être en découvrant d'anciens courriers ou d'anciennes indemnisations de l'ancien assureur, etc. Des choses comme ça. Donc, un certain nombre d'éléments qui sont difficiles à établir, mais si on en dispose, effectivement, on peut envisager une action sur les vices cachés à l'encontre du vendeur, donc c'est enfermé dans un délai court également de 2 ans. Donc c'est pas facile, mais on peut regarder déjà vis-à-vis du vendeur, bon, pour essayer d'écarter la clause d'exclusion des vices cachés. La première question que je lui poserais, c'est peut-être de vérifier, sait-on jamais, et y a-t-il eu des travaux sur cette étanchéité dans un délai d'il y a moins de 10 ans. Ça change beaucoup de choses. D'abord, si vous avez effectivement dans l'acte de vente qui précise que le vendeur aurait fait réaliser des travaux par une entreprise ou peut-être même lui-même réaliser des travaux, ça change beaucoup de choses puisque là on peut sortir du fondement des vices cachés qui est un fondement juridique assez délicat pour aller chercher directement la responsabilité décennale du vendeur. Parce que le vendeur qui a réalisé des travaux de construction, qui a réalisé un ouvrage, il va être considéré comme un constructeur. Juridiquement, ça change beaucoup de choses. Ça veut dire qu'il sera présumé responsable de désordres qui sont suffisamment graves. Donc, pour aller le chercher sur sa responsabilité décennale. Et surtout, s'il y a des entreprises, c'est mieux. Si elles sont assurées, on disposera de recours, on va dire, solvables. Parce qu'effectivement, le recours contre un vendeur, que ce soit un constructeur ou sur la base des vices cachés, on aura peut-être un problème de solvabilité qu'on n'aura pas avec l'assureur d'une entreprise, par exemple.
Merci pour ces précisions. Donc moi, je retiens que si on veut aller sur le fondement des vices cachés, donc les preuves sont pas toujours évidentes à rapporter, qu'on a un délai pour engager une action à l'encontre des vendeurs, ça c'est déterminant de l'avoir en tête. Et vous avez parlé des travaux qu'on peut faire effectuer sur un bien immobilier, toujours vérifier le contrat d'assurance ou demander l'attestation d'assurance de l'entreprise qui vient chez nous.
Tout à fait, récupérer les factures et attestations d'assurance des entreprises qui auraient réalisé des travaux, a priori défectueux, sur cette étanchéité de la toiture terrasse.
Oui, parce que c'est pas un réflexe qu'on a toujours quand on connaît pas, mais après quand on devient avocat en droit de la construction, on a des réflexes, et le réflexe c'est quand on fait des travaux chez soi de toujours demander l'attestation d'assurance de l'entreprise.
Et d'ailleurs on n'a pas toujours l'information dans les actes de vente, souvent on a l'identité de l'entreprise mais pas toujours les pièces qui vont avec.
Oui, c'est important de le rappeler. Nous avons reçu une deuxième question d'un propriétaire malheureux, malheureusement. Il a fait construire un pavillon en 2020, cet auditeur, et il nous explique que des fissures sont apparues il y a 2 ans sur le ravalement. Que peut-il faire ?
Alors c'est effectivement une question complexe également, puisque là je pense que vous évoquez les problèmes de catastrophes naturelles que vous évoquiez tout à l'heure
Il y a une autre question sur les catastrophes naturelles. Là je pense que c'est peut-être en lien avec la construction de 2020, avec peut-être un ravalement qui présenterait des désordres.
Très bien, donc là on est dans l'assurance construction pure et dure. Donc effectivement, si la construction date de 2020, on est dans le délai de 10 ans, le délai d'action de 10 ans. Donc il faut là retrouver les pièces effectivement de vie, facture ou PV de réception de l'entreprise qui est intervenue. Encore plus important, son attestation d'assurance. Et là, effectivement, il va falloir procéder donc à une déclaration de sinistre, à l'assureur décennal de cette entreprise-là. La garantie décennale, elle jouera si les désordres présentent une certaine gravité. Hein, c'est-à-dire, on dit qu'ils sont de nature décennale. C'est-à-dire que, par exemple, ces fissures devront être considérées comme étant de nature structurelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une atteinte à la solidité de l'ouvrage. Alors, c'est le premier critère. Si on a des problèmes de fuite, on parlera plutôt d'impropriété à destination de l'ouvrage. Et aussi, on a un troisième critère qui est celui de la sécurité. Ce serait plutôt par rapport à des normes incendies, des choses comme ça. Mais donc, on procédera à cette déclaration de sinistre. Et effectivement, on disposera d'un recours à l'encontre de l'assureur décennal de l'entreprise qui est intervenue. Également de l'entreprise qui est responsable également directement vis-à-vis de ce propriétaire. Donc, et encore une fois, il faut qu'il dispose de toutes ses pièces contractuelles et attestations d'assurance pour pouvoir exercer son recours. Par le biais d'une expertise amiable, comme on l'a dit tout à l'heure, ou si ça ne suffit pas, d'une expertise judiciaire, c'est-à-dire qu'il devra obtenir la désignation d'un expert judiciaire qui prononcera sur les causes de ces fissures, pourquoi elles apparaissent, comment on les répare, et effectivement, très important, si elles sont de nature décennale. Et si effectivement tous ces critères sont remplis, il pourra, on l'espère, transiger, ou alors obtenir par le biais d'une médiation de l'indemnité d'assurance pour réparer ces fissures, selon les causes qui ont été déterminées.
Bon, merci pour cette réponse très technique. Donc là, vous avez employé des noms précis, garantie décennale, responsabilité du constructeur, délai de 10 ans. Voilà, donc d'où l'importance de d'abord faire, solliciter la communication des attestations d'assurance des entreprises, notamment quand on fait construire un pavillon, c'est fondamental. Et deuxièmement, dès que des désordres apparaissent, immédiatement se rapprocher d'un avocat, parce que entre les délais de prescription, les garanties qui s'appliquent ou pas, on dit souvent que les assureurs veulent jamais payer, mais les assureurs payent quand ils sont dans les limites de leur garantie ou pas. Bon, ça discute, ça hoche de la tête pour certains de mes confrères, mais bon, pour expliquer aux auditeurs que les assureurs, quand ils doivent leur garantie, notamment sur des litiges construction avec des garanties décennales,
tout à fait, ben là, il faudra tout simplement que les fissures soient nature décennale et que l'entreprise soit bien assurée au titre de son activité de, on suppose, de gros œuvres.
Bon. Ça va rassurer notre auditeur. Alors, une dernière question. Alors, cette fois, relatif aux catastrophes naturelles. Un auditeur nous a contacté parce qu'il habite une commune touchée par une sécheresse l'été dernier. Et il indique que d'importantes fissures sont apparues sur son bien au courant de l'été. Il doit effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Quel conseil pouvez-vous lui fournir pour cette démarche?
Alors, en matière de catastrophes naturelles, il y a 4-5 points à vérifier pour cet auditeur. Le premier, c'est que lui, il puisse prouver la date précise d'apparition des désordres. C'est déjà très important. Il faut vraiment qu'on détermine cette période très précisément pour cet auditeur. Parce que par la suite, il y aura un arrêté catastrophe naturelle qui va être rendu. Et il faudra tout de même pouvoir apporter la preuve que les sinistres ou les fissures, je ne sais quel désordre, les désordres sont survenus sur la période reconnue comme ayant abouti sur cette catastrophe naturelle sur sa commune. Le deuxième point, il faut faire attention en matière de délai, parce que autant pour engager une action en matière décennale, on dispose d'un délai de 10 ans à l'encontre de l'entreprise et de son assureur décennal, autant en matière de catastrophe naturelle, on va procéder à une déclaration de sinistre auprès de son propre assureur multirisque habitation. Et là, entre l'assuré et son assureur, le principe, c'est 2 ans. D'accord. Alors, ces 2 ans, en matière de catastrophe naturelle, ça a été allongé à 5 ans, mais à partir d'une réforme de 2021. Mais bon, si vous avez un contrat qui est en cours, c'est toujours le délai de 2 ans qui était en cours avant cette réforme. Donc, c'est des délais qui vont vite. Donc, le deuxième point, c'est le délai de 2 ans. Faire très attention. Par la suite, il faudra notamment, encore une fois, donc après cette déclaration de sinistre, attendre la visite de l'expert d'assurance qui va passer et qui, lui, conclura ou pas, notamment à la cause déterminante de la sécheresse. Donc, en cas d'accord, il peut y avoir une indemnisation par l'assureur. En cas de divergence, encore une fois, il faudra donc délivrer une assignation en expertise judiciaire pour interroger l'expert judiciaire désigné par le tribunal sur, 1, est-ce que c'est bien la sécheresse qui est la cause de ces fissures? 2, surtout, comment on répare. C'est à partir de ce rapport-là qu'on pourra effectivement soit transiger, soit, en cas de toujours de divergence, d'assigner au fond par la suite en matière de catastrophe naturelle. Donc, pour résumer, pour cet auditeur, je dirais de bien déterminer la date d'apparition des dommages et, deuxièmement, de faire attention à ce délai très court de deux ans. La jurisprudence en général le fait partir à compter de la publication de l'arrêté catastrophe naturelle. Après, il y a des exceptions, surtout encore très récentes. Mais effectivement, la catastrophe naturelle avec le réchauffement climatique, c'est quand même une matière qui a fait l'objet de nombreuses réformes et qui va continuer à susciter beaucoup d'intérêt de nos auditeurs puisque les fréquences et les intensités des sinistres ne vont faire qu'augmenter.
Merci pour ces précisions. Merci à tous les trois pour votre professionnalisme, pour votre disponibilité. Merci d'avoir été mes invités aujourd'hui. L'émission Tous les droits, une émission par vous et pour vous. Je recevrai donc une fois par mois des avocats du barreau du Val d'Oise qui répondront à vos questions parce que nul n'est censé ignorer la loi et que vous devez connaître tous vos droits. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Francky pour la technique. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Son podcast sera disponible sur le site de la radio idfm98.fr. À très vite pour un nouveau numéro de Tous les droits sur IDFM Radio 98 FM. Belle journée à vous et bonne semaine.